suis totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Capi qui vous accorde la parole et bienvenue à tous dans Parole aux auditeurs. Le port international de Matadi connaît un engorgement indescriptible depuis plusieurs mois. Maintenant, selon certains observateurs, cette situation serait liée notamment à la lenteur dans les procédures douanières, la vétusté des matériels manutentionnaires ainsi que le mauvais état du quai d'accostage. Parole aux auditeurs en parle avec comme question principale: que faut-il faire pour assainir définitivement cet environnement portuaire? Rejoignez-nous pour participer à cet échange de près de 57 minutes à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore appelez-nous au 081 890 6315. Tite Poutou, Piero et Lameji sont à la réalisation de ce programme, mis en onde par Jean-Claude Ntiala et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Voilà, je disais tout à l'heure, le port de Matadi est engorgé. D'une part, des procédures administratives ralentissent l'enlèvement des marchandises. D'autre part, la vétusté et l'insuffisance du matériel de manutention ne permettent pas aux dockers de manœuvrer rapidement. Au bout du compte, son parc prévu pour 3500 conteneurs en compte le double. Nous en parlons donc avec vous. Vous pouvez également participer à ces débats. Nous avons en ligne déjà notre invité, Lems Kamonia, le directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports et Voies des Communications. Bonjour, monsieur Lems Kamonia.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Oui, c'est plutôt J.R. Lungembo.
J.R. Lungembo, bonjour.
Alors, est-ce que l'autorité des transports est consciente de l'état d'engorgement du port international de Matadi?
Tout à fait, mais d'abord, il faut qu'on puisse rectifier. À ce moment, quand on a effectué la mission la semaine passée à Matadi, le port n'est plus dans sa situation d'engorgement. C'est vrai que c'est un problème récurrent qui a été expliqué dernièrement par la grève des transporteurs. On va rentrer dans les détails, mais à ce jour, je peux vous garantir que le port n'est pas engorgé. Et les mécanismes qui ont été mis en place permettent quand même d'éviter qu'on arrive cette fois-ci à des situations d'engorgement où il est impossible de continuer à recevoir des navires à décharger au niveau du port de Matadi.
Voilà, si on peut peut-être revenir un tout petit peu en arrière, parce que là, il y a une confusion qui s'installe dans les esprits des populations. Quand on essaye de croiser le propos du comité d'engorgement, désengorgement du port et certains transitaires, le premier confirme que Matadi n'est pas en situation, et vous venez de le confirmer maintenant, donc n'est pas en situation de désengorgement, et des propos qui sont contraires dit par certains transitaires. Voilà, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Non, parce que nous-mêmes, nous avons séjourné à Matadi avec une forte délégation militaire pendant 4 jours. Nous avons fait la visite des installations portuaires, et peut-être si vous voulez que je vous donne même les chiffres sommaires qu'on a eu à avoir sur place, théoriquement, le port de Matadi peut recevoir jusqu'à 7200 conteneurs. Et pendant qu'on était à Matadi, la situation qu'on avait, c'était autour de 6600 conteneurs, et avant notre départ, on était à moins de 6200 conteneurs. Et aussi, ce qu'il faut savoir, cette capacité de 7200 est en train d'être dépassée, notamment par la possibilité qui existe maintenant au niveau du port de Matadi de superposer les conteneurs. Maintenant, avec les deux portiques qu'il y a au niveau de Matadi, il est possible de superposer jusqu'à 5 conteneurs, donc d'utiliser l'espace à rien. Donc avec la superposition de 5 conteneurs, je crois que la capacité du port peut dépasser ce qui est généralement connu de manière théorique, les 7200. Et on a été là, on a fait même avec des véhicules, nous sommes promenés à l'intérieur du terminal conteneur de Matadi, et effectivement, je vous confirme que le port n'est plus en situation d'engorgement. Il avait atteint cette limite-là pendant le moment où il y avait la grève, et dès le lendemain de la levée de la grève, on avait évacué 800 conteneurs, et on est rentré dans les seuils qui permettent de continuer la manutention au niveau de ces ports.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, monsieur le Dirkaba, en l'espace de quelques jours, comme par un coup de bâton magique, comme par un miracle, les ports est désengorgé, les ports n'est pas en situation d'engorgement. Voilà, donc, et pourtant, il y a quelques jours, il y a quelques mois, tout le monde était d'accord qu'effectivement, il y avait un problème au niveau de ce port de Matadi.
Exactement, je vous ai dit que l'engorgement qu'on a connu dernièrement, disons, le mois passé, cet engorgement, on a fait cette limite à cause de la grève des transporteurs routiers. Vous savez que la plupart des transporteurs routiers sont en grève, et quand ils sont en grève, on n'arrivait plus à évacuer tous les conteneurs qui étaient déchargés sur ces ports. D'abord, je tiens à rappeler que le port de Matadi, même de par sa construction, on l'a toujours considéré comme un port de transit. Ce n'est pas vraiment un port de stockage comme nous avons ici les ports de Kinshasa qui a une grande capacité qui peut recevoir beaucoup. Donc à Matadi, quand les navires arrivent, vous déchargez, il faut évacuer. Il ne faut pas laisser longtemps les conteneurs traîner au niveau de Matadi. Alors avec la grève de transporteurs routiers et face à la difficulté que nous avons pour évacuer par la voie ferrée, il s'est fait qu'on a atteint les limites de la capacité théorique de ces ports et les gens ont crié tout de suite à l'engorgement du port. Bon, ça c'est d'un côté. Bon. D'un autre côté, c'est vrai aussi que dans le cadre des différents services, parce que quand les conteneurs arrivent, c'est de l'importation, il faut remplir toutes les formalités, payer les droits des douanes, les acquitter pour sortir les marchandises. Ça aussi c'est un des éléments qui peut contribuer à retarder la sortie des conteneurs au niveau de ces ports, mais c'est un facteur qui ne contribue pas largement comme l'évacuation proprement dite. Et je peux aussi ajouter par là vous dire, il y a d'autres dispositions qui ont été prises. La DGDA, donc l'ex-OFIDA, a signé des contrats avec certains entrepôts publics concédés qui, au moment où on sent que les ports commencent à être engorgés, on évacue certains conteneurs du port pour aller les loger dans ces entrepôts-là, locaux au niveau de Matadi, pour arriver un peu à aérer la situation au niveau de Matadi. Donc ça, c'est un peu les dispositions qui ont été prises. Donc cet engorgement a été poussé notamment par cette grève de transporteurs.
Oui, monsieur le Dirkaba, c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de l'état des lieux ou l'état dans lequel se trouve le quai d'accostage ou encore le matériel de manutention, on voit directement la SCPT qui est sous tutelle du ministère des Transports et Voies de Communication. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, pour résoudre le problème d'engorgement du port, il faudrait aussi, la solution passe par la modernisation de ces matériels qui sont du reste vétustes. Hein. Alors, quel est le travail ou les projets qui est prévu par le ministère de tutelle pour arriver à résoudre ce problème aujourd'hui, les problèmes de quai d'accostage et les problèmes de matériel de manutention?
Ok, ça c'est une excellente question. C'est vrai, effectivement, au niveau de la SCPT, il y a ce problème d'avoir autant d'engins de manutention pour arriver à charger rapidement les navires et à constituer un meilleur stockage. De ce côté-là, à ce jour, ce n'est pas vraiment un grand problème qui s'est posé. Vous avez parlé ici de deux portes, deux équipements, deux engins de manutention qui permettent de faire cette superposition de conteneurs jusqu'à 5 moteurs. Malheureusement, ces portiques-là, c'est des équipements qui ne se déplacent que sur des bandes qui sont aménagées, qui sont dédiées à cela. Et actuellement, ces deux portiques ne fonctionnent que sur des bandes. On a décidé de multiplier le nombre de bandes pour les amener à 4. Comme ça, avec ça, on a la possibilité de superposer les conteneurs. Et ensuite, à l'issue de cette mission qui a été conduite par les 4 ministres avec... les 4 ministres des Transports, des Finances, de l'Économie et des vice-ministres de l'Intérieur, le gouvernement a pris la décision d'acquérir d'autres engins de manutention en faveur de l'ONATRA, de la SCPT. Donc ça, c'est une décision. Quoique c'est une entreprise commerciale, mais ça reste une entreprise de l'État. Et pour régler ces problèmes-là et faciliter encore la manutention au niveau de ce port, le gouvernement a décidé de mettre la main. Déjà, immédiatement, le gouvernement a décidé de débourser 500 000 $ pour finaliser les travaux en cours sur la réhabilitation du quai numéro 3. Ce sont des travaux qui ont été financés jusque-là sous fonds propres par la SCPP. Il restait 400 000 dollars pour les terminer. Le gouvernement a décidé de payer les 400 000. Et le gouvernement se propose encore de débourser 10 millions de dollars pour réhabiliter le quai numéro 2 et le quai numéro 1. Comme ça, on va augmenter la capacité au niveau de ce port. Si vous avez 10 quais qui fonctionnent, donc vous pouvez recevoir plusieurs navires à la fois et éviter que les navires ne prennent au mouillage parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'appostage au niveau du port. Alors, simultanément, si vous augmentez la capacité d'accueil, vous devez aussi augmenter les engins de manutention parce que recevoir un navire dans les quais, c'est une chose, mais il faut savoir les manutentions, il faut savoir les décharger. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a dit, je ne peux pas prendre une mesure qui est incomplète, je prends la mesure de réhabiliter les deux quais, ça va faire 10 millions, en plus de 400 000 pour terminer le quai numéro 3. Je prends la décision d'ajouter les engins de manutention, parce que là où il y aura tous les quais, vous n'aurez pas la possibilité que les portiques arrivent jusqu'au niveau de tous ces quais. Il faut avoir d'autres engins plus légers de manutention. Et ensuite, on doit même réhabiliter tout ce qu'il y a comme magasin et même construire de nouveau. Parce que si vous y allez, tous les magasins qui sont là, ce sont des magasins tels que les à l'époque coloniale. Même la toiture est restée la même. Cette fois-ci, le gouvernement a dit, je mets la main à la poche pour réhabiliter les entrepôts existants, construire d'autres entrepôts pour augmenter la capacité de stockage, notamment des marchandises qui arrivent en vrac, comme la sacherie ou bien la farine ou les ciments. Et ça, c'est autant de mesures qui sont prises par le gouvernement. Et ensuite, le gouvernement a décidé qu'on continue la construction de ports secs dans la ville de Matadi. Ça, on le voit notamment avec l'Ogefrain. Si on construit des ports secs, ça va faire en sorte que lorsque les ports commencent à être engorgés, on sort les marchandises de ces ports pour les stocker dans les différents ports secs. Voilà. Ce sont les dispositions qui sont prises. Et en marge de tout ça, le gouvernement est allé même très loin. Vous savez déjà, pour améliorer les chenals, notre bief maritime qui nous lie à l'océan pour recevoir les navires, c'est aussi ce bief-là, ce chenal est entretenu par la Congolaise des voies maritimes, la CVM. Le gouvernement a décidé de débourser immédiatement 500 000 dollars pour qu'on puisse baliser ce chenal, de façon à permettre même la navigation des nuits. Et des deux, le gouvernement a décidé encore de débourser 4 millions de dollars pour louer une drague qui doit entretenir ce chenal de façon à augmenter les courants d'eau pour permettre l'accès des bateaux de haute mer. Et en plus de ça, le gouvernement se propose de lancer encore un appel d'offres d'acquérir une drague neuve au profit de la CVM. Donc, il y a tout un programme dont les coûts minimales peut se situer autour de 50 000 dollars que le gouvernement compte investir au courant de cette année sur les problèmes du port de Matadi. Donc, ça commence par l'aménagement du cheval sur les maritimes pour permettre l'accès des bateaux, la réhabilitation des quais de Ronatra, la construction des magasins, l'acquisition des engins de manutention et la construction du port sec. Donc, je crois avec tous ces dispositifs, nous pensons que, en tout cas, à très court terme ou à moyen terme, on finira par régler ces problèmes d'engorgement du port de Matadi.
081-890-63-15 ou encore le 081-890-43-39 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Nous avons une question de Franck de Vienne que nous allons transmettre à notre invité tout à l'heure. C'est depuis des décennies qu'on parle des conditions difficiles du port de Matadi. Où en est-on avec le projet de construction du port des Bananas? On va y revenir, mais il est temps d'accorder la parole à Elie qui est à Likasi et d'Adi à Kinshasa. Bonjour Elie.
Bonjour JR.
Voilà, Elie, vous venez de suivre notre invité qui a énoncé là plusieurs mesures prises par le gouvernement congolais pour travailler sur la situation du port de Matadi. Vous avez la parole pour répondre à la question que nous nous sommes posée aujourd'hui au cours de cette émission. Que faut-il faire pour assainir définitivement l'environnement portuaire de Matadi?
Merci beaucoup JR. J'aimerais d'abord préciser que je réponds au nom d'Elie Kouyana, comme ça je me sens bien dans mon problématique.
Elie Kouyana.
Oui, oui.
Oui, allez-y.
J'ai suivi tout ce que l'invité a dit, mais le regret que j'exprime, c'est que les programmes sont arrêtés presque chaque année dans les différents budgets qui sont défendus au Parlement, votés par les députés. Il y a toujours, on y inclut toujours des programmes selon lesquels il y aura réhabilitation des ports, il y aura construction des magasins. Donc, tout ça, ce n'est pas du nouveau. Mais le problème, c'est quant à la réalisation, concrètement, il n'y a rien qui est fait. Moi, je voulais, par contre, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on doit faire? J'aimerais d'abord appeler et à l'invité et à mon confrère qui a posé la question, c'est que les domaines de la vie nationale travaillent en ce que nous appelons le système de vase communicant. Quand un domaine est malade,
ça peut paralyser les autres.
Il paralyse tous les autres. La question principale, c'est d'abord la politique qui est le moteur ou les noyaux autour duquel gravitent tous les autres domaines de la vie nationale. Quand le pays est malade sur le plan politique, les institutions ne fonctionnent pas normalement, c'est-à-dire il n'y a pas une indépendance de la justice, ce qui entraîne fatalement l'impunité, la corruption, ainsi que tous ces autres antivalaires. Et donc tout ne peut pas marcher. Moi, je proposerais à ces lieux qu'il y ait d'abord les nettoyements en commençant par les hauts niveaux de l'État, c'est-à-dire qu'on puisse mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À ce moment-là, le Congo peut être guéri. Les choses peuvent marcher. Tant que nous aurons ces mouvements, donc ces dirigeants qui ne prennent la peine que de s'enrichir et même sans penser.
Oui, Élie, si on peut réfléchir ensemble, aujourd'hui c'est vrai, la situation d'engorgement du port de Matadi ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Franck de Vienne, en Autriche, l'a reconnu en disant que c'est depuis des décennies. S'il faut remonter dans le temps, on peut même aller vers les années 2000. La même situation, Matadi connaissait pratiquement la même situation. Et s'il faut compter aujourd'hui à la tête, notamment de la SCPT, Il y a plusieurs personnalités qui sont passées. Le problème, c'est pas les hommes, ce sont pas les hommes qu'il faut placer, des personnes, comme vous le dites, mais c'est plutôt les actions à mener concrètement et le respect des engagements. Je crois que c'est à ce niveau-là dont vous voulez parler concrètement.
Mais qui doit mener les actions hier? Qui doit prendre les engagements? Le port de Matadi fait entrer combien d'argent dans les trésors du public? Il devrait faire sa propre reconstruction, ses propres activités. Donc on se pose la question, d'où est-ce que cet argent qui entre par le port de Matadi, d'où est-ce que cet argent va? C'est l'argent qui devrait contribuer en grande partie à la reconstruction de ce port. Il y a un problème de détournement, c'est un problème d'homme. L'argent, il y en a dans le pays, mais seulement l'argent ne va pas, n'est pas utilisé pour l'intérêt communautaire, entre autres la reconstruction du port de Matadi. C'est ça la situation que nous vivons même ici au Katanga. Vous allez voir que nous avons la SNPC qui est par terre parce que les gouvernants eux-mêmes, ils sont impliqués. Ils ont acheté les tracts et ils ont fait en sorte que la SNPC puisse tomber. Donc c'est ça le problème.
Voilà, merci beaucoup Élie. Donc nous retenons pour vous, hein, pour vous, donc la politique et le noyau autour desquels gravitent tous les autres domaines. Et vous avez même évoqué la question sur les budgets. Donc chaque année, on vote un budget. Et dans cette loi financière, il y a tout un programme qui est défini pour réhabiliter tel site ou réhabiliter tel autre. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui est toujours fait au finish. Et donc entre le projet et la réalisation, il y a un grand hiatus selon vos propos, et vous souhaiterez qu'il y ait vraiment une bonne politique pour arriver à amener à bon port ces actions. Merci Élie d'avoir appelé. Dadi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour JR.
Oui Dadi, vous avez suivi Élie, est-ce que vous partagez le même avis que lui?
Oui, tout à fait. Moi personnellement, je viens d'être là à Matadi l'année passée, c'était au mois de décembre. Je suis allé dédouaner un conteneur à 40 pieds, mais à ma grande surprise, lorsque je suis allé poser la question responsable, la première question que j'ai posée est de savoir, monsieur, voilà, nous avons un conteneur à 40 pieds. En somme, qu'est-ce que je peux payer pour qu'on puisse dédouaner? Non, voilà, ici, les choses ne se passent pas comme ça. Il faut tout simplement payer tous les 16 mois. J'ai dit non. Vous savez, le président de la République venait de signer une ordonnance autorisant 3 services, notamment Dex Onatra, DGDA et l'OCC. Mais s'il faut payer, dites-moi, s'il faut payer à ces 3 services, je paye une fois pour toutes comme ça, j'ai des dons. Non, il faut payer jusqu'à ce que nous avons payé une chose de 14 800, quelque chose comme ça. Maintenant, la question que moi je pose à notre invité, qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir? Est-ce qu'il y a-t-il pas un moyen, pas une nomenclature, et on affiche à chaque fois que quelqu'un qui a ses conteneurs, on vient et on dépose l'argent, soit lorsqu'il y a l'ouverture d'un guichet unique, on verse automatiquement de l'argent et puis on dédouane la marchandise. Et puis d'aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut assainir carrément notre administration. Parce que vous voyez, il y a même de ces agents qui sont engagés par l'État, payés par l'État, mais avant de signer un document, c'est automatique. Moi, je ne vais pas ici commencer à citer des noms et puis les services, mais il est connu que non, s'il faut voir ses papas, s'il faut voir ses services, avant même qu'ils apposent leur signature, il faut déposer 20 dollars ou 50 dollars. Et c'est automatique. Donc, il y a une corruption ordonnée, organisée et puis autorisée. Vraiment, les pays ne vont pas aller dans cette façon.
Merci beaucoup, Dadi. Olivier, vous êtes à Kikwite. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité.
Voilà, Olivier, vous avez suivi Elie et Dadi. Vous avez également votre avis par rapport à la question du jour. Que faut-il faire pour assainir définitivement cet environnement portuaire de Matadi?
Ok. Moi, je pense qu'il y a d'abord un petit problème. C'est que je constate que toutes les mesures que l'invité nous a énumérées ne donneraient leurs effets que dans 50 ou 60 ans. Enfin, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est
années-là qu'on va devoir... Si je l'ai bien suivi, il a parlé des courts termes.
Oui. Ça m'étonnerait parce que ces mesures-là sont envisagées par les multiples gouvernements depuis très très longtemps. Moi, je connais bien cette histoire-là du port de Matadi. Donc, c'est depuis très longtemps qu'avec la RVM, ici on nous parle par exemple de louer une drague. La RVM s'est toujours battue depuis très longtemps. Elle a eu, je crois, deux vieilles dragues qui ont été finalement immobilisées. Et maintenant, on nous parle de louer une drague. Pas d'acheter, on va louer. Ça signifie que le problème de drague ne sera pas résolu. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas moderniser les procédures de dédouanement. Maintenant, nous avons l'Internet et dans beaucoup d'autres pays, les transitaires peuvent déjà amorcer le dédouanement pendant que les conteneurs se trouvent en route. Donc, l'expéditeur envoie tout le contenu par courrier électronique et tout ça. Et déjà, avant que le conteneur n'arrive à Matadi, on sait déjà qu'il y a un conteneur qui contient telle marchandise. Et donc, le transitaire à qui cette histoire est destinée, il peut déjà commencer les procédures et donc faciliter ou raccourcir la durée du séjour du conteneur dans le port. Ça, c'est une chose qui peut être faite à très court terme. Alors, il y a un autre problème que je pense on pourrait résoudre facilement, c'est l'assainissement du personnel. Vous savez, quand vous allez au port de Matadi, il y a 40 000 personnes, et dans les 40 000, vous ne savez pas qui fait quoi. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui disparaissent, on ne sait même pas retrouver les coupables. Ça, c'est... Il y a des choses assez anormales à Matadi, et comme venait de dire le prédécesseur, en fait, c'est un désordre qui est vraiment organisé. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, si on a la volonté d'arranger les choses, à moins qu'on ait des pourcentages dans ces affaires-là, si on veut arranger les choses, il faut commencer par maîtriser le personnel au port de Matadi.
Quand vous parlez, il ne faut pas oublier, Olivier, qu'il y a plusieurs services qui opèrent au port international de Matadi. Il y a la DGDA, il y a la SCPT, il y a la RVM. Ben voilà, vous parlez de quel personnel? Personnel par rapport à chaque service ou le personnel, disons, affecté pour les services du port?
Mais, justement, vous voyez qu'il y a justement il y a une confusion. Parce que tout ce monde-là, toutes ces cabines sont là et tous ces services sont là. Mais quand vous parlez de la manutention, par exemple, les manutentionnaires, vous en trouvez dans tous les couloirs. Vous en trouvez dans tout. Donc, c'est ça.
Donc, ils sont partout.
Allô?
Les manutentionnaires, ils sont partout.
Oui, dans tous les ports, vous les trouvez. Vous ne savez pas qui est manutentionnaire, qui est agent de ceci, qui est agent de cela. Donc, je pense que de ce côté-là, il faudrait quand même mettre un peu d'ordre.
Il faut un peu d'ordre. Oui.
Ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent là-bas.
Merci beaucoup Olivier. Donc vous craignez ces cafouillages, hein. Il y a, on sait qui fait quoi, on ne sait pas. Donc il y a vraiment Méli-Mélo, il y a plusieurs manutentionnaires qui ne sont pas très bien identifiés. Bon, il y a même des voleurs qui s'infiltrent. Bon, je crois que votre inquiétude est très très pertinente. Notre invité pourrait dans bien des cas répondre à cette question, parce que s'il y a l'objectif de pouvoir placer de matériel, revoir des matériel manutentionnaire, je crois qu'il faudrait aussi penser à ceux qui vont les utiliser et aussi mettre un peu de l'ordre de ce côté-là. Merci Olivier d'avoir participé à cette émission. Dorcas, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Dorcas. Oui Dorcas, vous êtes avec nous. Bonjour Dorcas. Voilà Dorcas, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous. Dorcas, vous avez suivi vos prédécesseurs. Vous allez également répondre à cette question hein, du jour. Que faut-il faire pour assainir définitivement cet environnement portuaire de Matadi?
Ok, merci beaucoup. Premièrement, je tiens à me présenter. Je suis Dorcas Eleleza Lubumbashi. Le problème de réhabiliter le port de Matadi, ça date de longtemps, comme mes prédécesseurs venaient à peine de le dire. Mais ce que je dois dire pour assainir le port de Matadi, il faudrait que le gouvernement, ça dépend de la compétence du gouvernement. Puisque quand le gouvernement est en train de voter le budget, ils sont en train d'énumérer plusieurs projets à la fois, certains, certes, qui ne seraient pas à réaliser. Ils ont caché à réhabiliter beaucoup de choses alors qu'ils ne sont pas à mesure de les réhabiliter. Par contre, ils devaient commencer un après l'autre. Donc, ils prennent premièrement à réhabiliter ceci.
Oui, donc, si je comprends bien, vous voulez demander au gouvernement d'avoir une programmation dans l'exécution des travaux. Il ne faudrait pas embrasser tout à la fois, hein, parce que tout qui trop embrasse mal étreint, c'est ça?
Exactement, vous n'avez pas droit à l'erreur, à mon idée.
Voilà, merci beaucoup.
Oui, c'est ce que j'ai dit, ils doivent commencer.
Ils doivent commencer quelque part.
Se lancer directement dans tous ces projets.
Et vous proposez,
ils seront embrouillés.
Et vous proposez quoi concrètement pour le port de Matadi, pour assainir définitivement? Parce qu'il y a un problème des manutentions, il y a un problème du quai qui est dans un mauvais état. Il y a également le problème des procédures, de la lenteur au niveau des procédures douanières. Vous voulez que le gouvernement commence par où que le gouvernement commence?
Bon, ils doivent commencer par l'endroit où l'État se présente vraiment à un délabrement trop avancé.
Voilà, merci beaucoup Dorcas. Nous prenons Kayan Paul qui est à Matadi. Ben voilà, je crois qu'avec lui, nous aurons tout petit peu peut-être un témoignage hein, sur place. Hein. Jean-Paul, pardon, c'est Jean-Paul qui est à Matadi. Jean-Paul, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Roger.
Voilà, Jean-Paul, vous êtes à Matadi, sûrement vous avez quand même le temps de visiter ce port international et vous avez une idée sur ce qui se passe concrètement. D'aucuns parlent de la situation d'engorgement, d'autres disent, ben voilà, il y a quand même une solution qui venait d'être trouvée. Et vous, vous êtes là sur place, qu'est-ce que vous avez constaté et que faut-il faire pour assainir définitivement cet environnement portuaire?
Bon, merci, Roger, pour la parole, mais j'aimerais relever une chose. À propos de ce que l'invité a parlé au début, il a dit ceci, qu'ils sont en train d'utiliser l'espace aérien pour diminuer un peu l'engorgement. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne maîtrise pas. Je ne sais pas si les techniciens qui me pardonnent, je ne sais pas si les techniciens ou quoi, mais pour remonter jusqu'au cinquième tir, c'est-à-dire stocker le conteneur jusqu'au cinquième tir, lorsqu'un déclarant cherche son conteneur qui se trouve au milieu des autres conteneurs, l'opération peut prendre toute une journée. Donc quand on dit que le port se trouve dans une situation d'engorgement, je pense qu'il y a des choses qui ne maîtrisent pas. Donc ça c'est la théorie. Mais nous qui sommes sur place, nous savons que c'est une grande difficulté.
Alors vous qui êtes sur place, Jean-Paul, vous maintenez que la situation d'engorgement persiste. Il y a encore cette situation d'engorgement.
Non, évidemment avec tout ce que l'invité a parlé. Il y a des choses positives que je ne saurais pas contredire parce que ça fait voir.
Tout à fait.
Mais ce qui crée l'engorgement, c'est quoi? Tout d'abord, c'est l'administration, la lourdeur dans l'administration. Il n'est pas normal quelqu'un qui vient avec son argent, il a tout, mais qui va faire un mois rien que pour faire sortir un conteneur. Ça signifie qu'il y a un problème quelque part pour, à ce qui concerne la procédure. Vous venez par exemple à la recette de l'Oshida. Un déclarant peut faire toute une journée, et rien que pour obtenir les signatures au niveau de la recette. Là, nous ne sommes pas encore au niveau de l'inspection, au niveau du contrôleur.
Mais Jean-Paul, mais l'État avait décidé de l'installation d'un guichet unique. Je crois que le problème ne pourrait plus se poser.
Oui, mais au moment où toutes ces procédures ne sont pas encore opérationnelles. Donc, nous voyons le présent. Pour le moment, on continue à utiliser Sidonia avec l'ancienne formule. Nous attendons Sidonia nouvelle version. Sidonia.
Le guichet unique ne marche pas.
C'est ce que je dis. Guichet unique avec l'ancienne formule qui existe, mais la nouvelle formule, pas encore. Et le directeur Kouma, celui qui est devenu ADG de l'ONATRA, avait commencé une procédure pour passer les opérations à quatre étapes. C'est-à-dire que personne ne peut pas faire plus de 2 jours dans les processus de dédouanement. Mais malheureusement, celui-là est allé. Mais je sais qu'avec l'arrivée aussi de Dikenda, qui est l'actuel directeur des départements, celui-là aussi, il est très, 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 très intelligent. Je pense que
c'est voilà, le même
prof que...
Donc pour vous, écoutez, notre invité a parlé tout à l'heure de plusieurs mesures prises par le gouvernement congolais, toujours dans le cadre de recherche ou de la recherche de solutions. C'est vrai, vous évoquez plusieurs problèmes. Il faut aussi des solutions vraiment transversales parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans cette situation. Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, le port sec, ça pourrait quand même résoudre le problème. La réhabilitation de matériel de manutention, ça pourrait aussi être une des solutions du problème.
Oui, tout ce qu'il a dit là, ça sont des très bonnes intentions. Et croyez-moi, s'il faut l'appliquer aujourd'hui, ça sera une partie des solutions. Mais prenons l'exemple de location des dragues maritimes. Vous vous rendez compte, si les dragues coûtent plus ou moins 30 millions de dollars. Pourquoi le gouvernement n'était pas consenti de beaucoup d'efforts pour
acheter directement
un drag au lieu d'aller louer et recevoir des commissions parce que avec 4 millions qu'on va dépenser, c'est pour 3 mois seulement.
Voilà,
le gars va travailler pour 3 mois
et l'argent
sera dilapidé comme ça.
Voilà, donc, vous craignez qu'il y ait ce phénomène de commission illégale, hein, où les gens, les gens qui vont en profiter parce que... Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir appelé de Matadi. Nous prenons directement Arsène de Kikwit, Arsène qui nous a rejoint. Arsène, bonjour. Arsène, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous,
vous. Oui, merci d'être avec nous. Vous avez suivi, vos prédécesseurs. Hein, et sûrement, vous avez quand même un point de vue par rapport à la question du jour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir définitivement cet environnement portuaire de Matadi?
Ok, moi je situe le problème dans deux volets. Le premier volet, c'est le volet technique. Un port, c'est une installation technique. Une installation technique a des normes qu'il faut respecter. Dès qu'on respecte les normes techniques, il y a toute une gamme de mesures qu'on essaie de tracer. Et si on suit ces mesures-là, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Là, il n'y a pas aussi débat. Parce que c'est un problème technique, c'est scientifique, c'est mathématique. Alors, le second volet, je prendrai du volet de gestion de problèmes que nous avons tout le temps. Au niveau de nos services. C'est un problème de conscience. On a l'art toujours de nous donner des plans, et ces plans-là, ils ne savent pas les appliquer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de politiser ce qui est technique, on les politise, et... Allô?
Oui, allez-y Arsène.
Oui, on politise le problème technique, et en fait, on ne sait pas trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, si on doit investir dans ce port-là, qu'on laisse les techniciens, les gestionnaires de ces ports tranquilles, sans toutefois qu'il y ait un doigt quelque part ou bien des coups de téléphone qui arrivent au niveau supérieur, je crois qu'il y aura simplement des solutions et ça va passer. Qu'on mette le moyen, faites confiance aux techniciens qui sont sur place dans tous les domaines qu'il y a, il y aura la solution.
Oui, oui, Arsène, oui, Arsène, mais cela n'empêche que le gouvernement, qui est l'autorité, puisse quand même avoir un regard sur ce qui se passe. C'est très important, raison pour laquelle nous avons vu quatre ministres, si ma mémoire est bonne, qui ont fait les déplacements de Matadi pour réellement se rendre compte de la situation. Le ministre des Transports notamment, celui de l'économie, de l'intérieur, et ainsi que celui de délégué aux finances.
Mais ce n'est pas le problème des ministres. Ils n'ont pas des inspecteurs pour faire ça. Ce n'est pas un problème des ministres. Le ministre, il donne la ligne de conduite, le plan général. Il donne les grandes lignes et c'est fini. Le reste, c'est un problème des inspecteurs. Et il y a chaque inspecteur dans chaque domaine. Et le problème serait résolu.
Donc pour
ce
vous,
n'est pas le problème du ministre. Je crois que ce n'est pas son problème.
Donc pour vous, ce voyage, c'était non-sens, c'est ça?
Moi, je trouve ça, c'était pas nécessaire s'ils ont des gens qui font confiance aux inspecteurs.
Voilà, merci beaucoup Arsène d'avoir appelé 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous revenons dans ce studio et nous rappelons encore notre invité qui est en ligne, Lems Kamoania, directeur de cabinet adjoint au ministère de Transport et Voies des Communications. Monsieur Lems, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, vous avez suivi les inquiétudes des uns et des autres. Beaucoup d'appréhension et aussi, s'il faut quand même qu'on reste un peu sur la dernière préoccupation, celle de Dadi, qui a été, la même préoccupation a été partagée par Olivier, en ce qui concerne les dragues. Au lieu de louer, pourquoi le gouvernement n'achèterait pas une drague qui pourrait faire le travail?
Oui, excellente question. Je crois que peut-être je suis allé trop vite en besogne, on n'a pas bien capté le message que j'ai donné. Vous savez, une drague, ce n'est pas une chemise ou un pantalon, on va au magasin, on l'achète. Une drague, ça se commande. Entre le moment où vous passez la commande d'une drague et le moment où on vous la livre, ça prend entre 14-18 mois. Vous pouvez même atteindre 24 mois. Entre-temps, quand vous commandez une drague neuve pour 24 mois, avant de réceptionner la drague, comment allez-vous régler les problèmes récurrents d'ensablement du chaînage de navigation? C'est ainsi que je vous ai dit, il y a deux décisions qui ont été prises par le gouvernement. La première, c'est que immédiatement on va passer la commande pour acquérir une nouvelle drague. Si on passe la commande dans les 3 mois, parce qu'il faut recruter l'entreprise qui va fournir cette drague par en courant la procédure de passation des marchés pour éviter la corruption et les dessous des tables. C'est-à-dire, je prends les cas, par exemple, si on passe ta commande au mois de juin, il faut attendre la nouvelle drague fin 2014. Entre-temps, nous avons fait appel à la petite décrue, la petite saison sèche que nous traversons maintenant, qui peut créer, qui entraîne la diminution des eaux et la diminution du tirant d'eau. Avec cette diminution du tirant d'eau, vous ne saurez pas passer dans les chenals de navigation, vous ne saurez pas y faire passer des grands navires. D'ici au mois de mai, juin, on aura la saison sèche, qui va aussi entraîner une diminution des eaux. Comment allez-vous fracturer vos navires avant que la nouvelle drague ne puisse venir? C'est ainsi qu'il y a deux mesures complémentaires qui ont été prises par les gouvernements au niveau de la CRL. La première mesure, c'est louer immédiatement une drague pour faire face aux problèmes récurrents, immédiats, dans sa plainte de réduction du niveau d'eau pour les mois de février, mars et les mois de mai, juin, pendant la grande saison sèche, en attendant que la nouvelle drague ne puisse arriver. Là, ce sont les deux mesures qui ont été prises. Je crois que ceux qui suivent régulièrement les réunions du groupe thématique, ils suivront bien que ces deux mesures ont été prises. Donc là, je peux rassurer les interlocuteurs. Et ça, le gouvernement le fait indépendamment du fait que la CVM, qui était l'ancienne RVM, est devenue société commerciale. Le gouvernement s'est dit, c'est un problème national, c'est un problème du gouvernement national, j'y mets des moyens. Je crois qu'avec cette explication, le malentendu est dissipé. Donc, la location de la drague, c'est une mesure temporaire en attendant que la nouvelle drague qui sera achetée ne puisse arriver parce que son acquisition, il faut compter entre 16 et 18 mois, voire 24 mois en fonction des caractéristiques de cette drague. Alors, j'aimerais toujours continuer dans, si vous me permettez, j'y vais.
Oui, allez-y.
Oui, mais voilà. Je vois que dans la plupart des intervenants ont évoqué la question de l'homme qu'il faut, la question de nos services, la question de corruption, de la lourdeur au niveau de l'administration. Je crois que c'est un problème fondamental. Même nous le partageons. Même la délégation ministérielle qui a fait le déplacement de Matadi a fait ce constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre les engins qu'il faut, vous pouvez mettre en place des procédures, mais au finish, c'est l'homme qui les met en place.
Mmh.
Vous savez, pour la première fois dans ce pays, la mesure qui a été prise à la suite de cette réunion, je crois que vous avez suivi, on a suspendu 67 personnes parmi les personnels les plus gradés de la DGDA, de l'OFIDA au niveau des Matadi. Pourquoi on l'a fait? C'est un signal fort pour montrer que on ne peut plus continuer à blaguer. Ça a été, les personnes les plus haut placées au niveau des Matadi de la DGDA ont été relevées. 67 personnes. Ça, c'est une mesure qui n'a pas été prise. Et ça, c'est au niveau d'un service, et on construit des investigations pour les autres services à l'aéroport. Cela montre clairement la volonté du gouvernement de pouvoir assainir ces secteurs-là. Alors, ces problèmes techniques-là, c'est un problème qui est capital, qu'il faut arriver à régler en plaçant les personnes qu'il faut. Quelqu'un a même évoqué la pléthore du personnel qu'il y a.
Mmh.
Mais c'est ce que pour la DGDA, on a dénombré 917 agents, rien qu'à Matadi, agents de l'OFIDAMO. Vous vous rendez compte avec un tel nombre-là, comment voulez-vous avoir l'efficacité? Il y a ce qu'on appelle en économie la loi des rendements décroissants. Plus vous avez un nombre élevé du personnel par rapport au travail, les rendements deviennent décroissants. Donc il y a tout ça, ce sont des préoccupations que le gouvernement a partagées et le gouvernement a pris des mesures. C'est vrai que nous tous en tant que Congolais, on a été désabusés par les promesses fallacieuses, fantaisistes, parfois des gouvernements passés, mais cette fois-ci, peut-être on ne peut pas me croire sur parole, je crois que dans les prochains jours, les gens verront qu'il y a quand même des signaux forts, une volonté réelle de pouvoir changer les choses, de pouvoir améliorer les choses, et le gouvernement regarde les problèmes en face et y met des moyens. Quand je vous parle de 400 000 euros qu'on va donner à la STP, ce n'est pas de la théorie. Si vous posez à la STP, on vous dit que les procédures sont lancées pour que l'argent soit versé dans les comptes. Je crois qu'à la fin de la semaine, ils auront l'argent pour finaliser les quais. Le gouvernement a versé l'argent à la STP pour réhabiliter les bateaux ITB Kokoro. Dans le secteur de l'aviation, le gouvernement décaisse effectivement de l'argent. Ce qui ne se passait pas avant. Peut-être aujourd'hui, les gens ne voient pas, mais je crois que d'ici la fin de l'année, quand on va avoir les différentes interventions économiques réalisées par le gouvernement, les gens se rendront compte. Alors, on a parlé des procédures de dédouanement informatisé. Elles sont en place, elles sont en train d'être améliorées. Aujourd'hui, il y avait les Sidonia, on fait la migration, on va maintenant aller vers les Sidonia Or, et on a dit qu'il faut diminuer ce qu'on appelle en termes techniques la sélectivité manuelle. Pourquoi tous les documents doivent être traités manuellement? Alors, nous voulons abandonner ce traitement manuel pour passer à un traitement qui est informatisé. Alors, il y a, je crois, M. Jean-Paul qui a dit, c'est difficile de retrouver un conteneur au port de Matadi, il faut faire 24 heures. Je crois que non, ça, c'était dans l'ancien temps. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un conteneur, on n'arrive pas, on les voit comme ça, parce que tant qu'ils sont superposés, ça demande quand même quelques heures. Mais il y a quand même une relation qui a été mise en place. Actuellement, quand vous arrivez au port de Matadi, les conteneurs, quand ils sont déchargés, on ne recoupe pas l'agent maritime. Ou on recoupe la ville qui les a apportés. Si vous voilà, moi, mon conteneur est arrivé avec tel navire, on sait localiser quel est le lot de conteneurs qui sont arrivés à travers ces navires-là par l'intermédiaire de cet agent maritime. Ça peut prendre quelques heures. C'est tout un passé. Il faut aussi gérer cet espace. Et je continue à rappeler que le port de Matadi, c'est un port de transit. Donc, il faut continuer à gérer ce petit espace. Et là, on est même allé très loin, parce que pourquoi les gens doivent perdre autant de temps pour trouver un conteneur? On a même trouver l'idée de dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux de passer vers l'introduction des pistes électroniques? Comme ça, on sait identifier, localiser un port, là, un conteneur là où il se trouve. Donc maintenant, aujourd'hui, on a quand même réduit ce temps de recherche. Ce n'est pas comme avant, on était des comités, les gens pouvaient passer parfois 3 jours pour retrouver un conteneur. Aujourd'hui, c'est un problème de quelques heures. Ça peut entraîner des travaux pour arriver à sortir les conteneurs, mais cela ne signifie pas qu'on peut prendre 24 heures, non. Celui qui le dit, je crois qu'il doit actualiser ses connaissances. On a quand même fait attention, beaucoup d'avancées par rapport à ce niveau-là, par rapport à la question. Donc, le problème du guichet unique est là. Il y a M. David qui a évoqué le problème de corruption.
Oui, si vous permettez, Lem Scamonia, on va revenir sur le problème du guichet unique. Le temps d'accorder la parole à Ernest qui est à Matadi et confiance. À Kinshasa, peut-être Ernest nous pourra apporter quelques éléments nouveaux par rapport à ce débat et confiance qui est à Kinshasa. Ernest, bonjour. Ernest, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour, je vous écoute.
Voilà, vous venez de suivre vos prédécesseurs et également les deux interventions de notre invité. Que faut-il faire, pour, selon vous, pour assainir définitivement cet environnement portuaire de Matadi?
Merci, JR. Je crois que cette histoire du port de Matadi, c'est chaque fois qu'on en parle, on en discute, mais on trouve qu'il y a un blocage, une volonté délibérée des autorités, parce que lorsque une autorité est nommée à la tête des ports de Matadi ou de la DGDA, on attrape, il y a tous ces services qui fonctionnent au niveau du port de Matadi, il y a empiétement par Kinshasa. Et cet empiétement de Kinshasa fait qu'il n'y ait pas une coordination pour chercher des sanctions et venir placer les gens qu'ils ont déjà dans leur mallette. Nous regrettons lorsque on sanctionne des gens. Et pendant que lorsqu'on nomme une personne à la tête d'une entreprise, il a un plan d'action. Il peut échelonner ça en 3, en 6, une année de durée de travaux pour voir et évaluer à la fin. Mais en plein exercice, il n'a pas terminé son plan d'action, il y a contrôle et suspension. Et moi, je pense que tout ce qui se passe au Bas-Congo et au niveau de Matadi, parce que depuis l'époque, le feu gouverneur de Sassine Toumba, la situation n'a jamais été trouvée. À l'époque, le gouverneur de Sassine Toumba a eu des problèmes avec le Matadi parce que on avait renvoyé les activités au niveau des Boma pour assainir Matadi. Mais cela n'a jamais été fait. Donc nous pensons que, moi personnellement, je crois qu'il y a une volonté délibérée du gouvernement pour justifier par ces erreurs au niveau de Matadi ou par ces difficultés de donner rapidement les marchandises, évacuer rapidement l'espace portuaire que nous avons pour justifier le plus mieux le projet Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa. Or, dans ces conditions, on est en train de sécher la province du Bas-Congo, on est en train de sécher les recherches qu'on peut réaliser au niveau de la province au bénéfice de la République démocratique du Congo pour que cela soit partagé entre nous et Congo-Brazza. Donc, je pense il faut avoir les mesures préférentielles et dédouaner rapidement les choses, faciliter un peu, parce que c'est connu de tous. Matadi, c'est le port le plus cher du monde. Alors, lorsqu'il y a trop de services, le prix de demain augmente aussi. Donc, il faut qu'on puisse revoir les prix préférentiels pour évacuer rapidement les marchandises et faire une vitesse rapide de rotation des importateurs avec ce qui vient.
Voilà, je crois que Ernest, on reviendra très prochainement d'ailleurs sur le débat où en est-on avec la nomenclature des taxes, hein, la loi sur la nomenclature des taxes, en principe, qui devait être déjà d'application. Nous allons revenir sur ça pour sensibiliser davantage la population à ces sujets, afin que tout le monde soit en tout cas au même niveau pour comprendre qu'est-ce qu'on doit payer à Matadi et qu'est-ce qu'on ne doit pas, qu'est-ce qui n'est pas exigé. Voilà, merci beaucoup Ernest. Confiance, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Confiance, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, on va retrouver Confiance dans un instant. Le temps de revenir à vous, Lems Kamonia. Vous parlez d'ailleurs de guichet unique, si vous pouvez poursuivre et puis revenir à la préoccupation de Ernest de Matadi.
Je suis en train de parler du guichet unique.
Oui.
Je crois à ce jour, quelle est la pratique? Donc, le souci, c'était celui d'éviter, lorsque quelqu'un cherche à importer, qu'il s'adresse à la multiplicité de services pour effectuer les paiements. On s'est dit, il effectue un seul paiement, et là-dedans, on a déjà paramétré, on sait que à l'ONATRA, c'est autant, à l'OFIDA, c'est autant, à l'OCC, c'est autant, à tel service, c'est autant. Et le guichet unique fonctionne. Et pendant qu'on était là, on a constaté qu'il y avait quand même certains dysfonctionnements. Par exemple, il y a certaines taxes qui sont dues, ou certaines redevances qui sont dues au service public, mais qui se payent en dehors des guichets uniques, soit sous forme de redressement et de régularisation. Et le gouvernement, pendant qu'on était là, on a pris la décision de dire, toutes ces redevances-là qui se payent en dehors des guichets uniques doivent être intégrées. C'est notamment, par exemple, pour les gouvernements provinciaux du Bas-Congo, il y a ce qu'on appelle la taxe de débarquement, c'est notamment la redevance informatique, donc il y a plusieurs, la ferie de régularisation, donc il y a plusieurs autres taxes qui se percevaient en dehors du guichet unique qu'on a décidé d'intégrer à l'intérieur. Et améliorer le niveau de fonctionnement du guichet unique, aussi bien la connexion informatique que les logiciels qui sont en train d'être utilisés. Et faire en sorte que toutes les redevances soient intégré dans ces guichets uniques. Et là où il y avait discordance des services, par exemple pour l'OCC, on a décidé que l'OCC puisse aller dans ce qu'on appelle la commission de contre-écriture pour vérifier que la valeur en douane qui est appliquée soit celle-là et éviter qu'il y ait d'autres. C'est vrai, vous savez, dans la gouvernance, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un gouffre qu'il faut. C'est quand vous passez à la pratique que vous vous rendez compte qu'il y a telle difficulté, il faut les régler. Sinon, s'il n'y avait pas de difficulté, l'action même du gouvernement n'aurait pas un sens. Il faut qu'il y ait des problèmes, qu'on regarde quels sont les problèmes, et au moins on prend l'option pour les régler. Donc, à ce jour, on a fait une analyse critique du guichet unique, on a vu les faiblesses, et on arrive à... On a proposé tout un tas de mesures pour arriver à les régler, et le gouvernement s'est dit que sur les 3 ou 4 prochains mois, on doit passer régulièrement pour évaluer tout ce qui a été arrêté comme mesure. Vous allez vous rappeler que le Premier ministre lui-même avait fait le déplacement de Matadi au mois de juillet, accompagné d'une forte équipe gouvernementale. Au mois de janvier passé, ici, il y avait tous les ADG des services qui opèrent à Matadi, ils ont été là. Et au mois de février, ici, c'était une forte délégation ministérielle qui a été là. Donc, ça montre vraiment la volonté du gouvernement de dire ce n'est pas un petit problème comme ça qui doit être récurrent. Chaque fois, on y revient, corruption, engorgement. On dit, mais comment on peut ne pas régler ces problèmes-là? C'est ainsi que le gouvernement, à travers l'action du Premier ministre, a demandé qu'on fasse un effort pour arriver à mettre fin et qu'on prenne toutes les mesures qui s'imposent. Je peux vous donner quelque chose qui est insolite. Vous savez que dans la délégation ministérielle, il y avait la présence des hautes autorités du parquet général de la République et les premiers avocats général de l'auditorat militaire. Mmh. C'est-à-dire, on a dit, allez sur place, si vous trouvez des gens qui interfèrent, par exemple, dans l'ordre opérationnel qui réduit le nombre de services qui doivent opérer au niveau des ports et de nos frontières, qu'il soit, que cette personne soit militaire ou civile, vous l'interpellez sur place, là. S'il faut les juger de manière fonctionnelle, vous les jugez et vous les condamnez. Et au moment où je vous parle, ce travail continue parce qu'on s'est dit, il faut aller, on ne doit pas continuer à défier les gouvernements et arriver à ne pas régler un problème qui est assez simple. Alors, j'aimerais terminer par...
Oui, on va conclure avec vous tout à l'heure, Lems, laissez-nous le temps peut-être d'accorder aussi quelques minutes à Confiance et à Stoyenne. Confiance est à Kinshasa, Stoyenne à Lubumbashi. Confiance, bonjour.
Bonjour à tous les opérateurs de la radio de la paix.
Rapidement, Confiance, vous avez une minute.
En fait, j'ai bien écouté l'invité, mais à part le fait qu'il ait glorifié des grandes équipes qui descendent sur terrain, moi j'aurais voulu qu'on se pose aussi la question de savoir quel a été le résultat de ces grandes descentes sur terrain, grandes délégations. Le résultat est négatif.
On a pris des mesures.
Je vous ai toujours dit que nous revenons toujours au même problème parce que nous manquons d'objectivité, nous manquons de redevabilité. À qui est-ce qu'on doit demander les résultats? Moi, j'ai toujours parlé de ce problème du target. Hein, les autres ont parlé de la façon qu'il faut... en principe, il y a un problème de target. On fixe un target à une autorité, à un système, et puis on le contrôle. Quand on contrôle après, on se rend compte que ça n'a pas marché. On sanctionne. C'est ça le mal qui est chez nous. Hein, on est prêt à prendre des décisions spectaculaires, en pompe, avec fanfare et tambour, et on y va juste pour gonfler les frais d'émission. Mais en réalité, le résultat est le même. Il y a combien de mois que c'est... Ces délégations effectuent des voyages au Bas-Congo. Mais quel est le résultat après? On se cache toujours. Ce sont des gens qui sont toujours plaintifs. Hein, je sais pas comment on peut se voir déjà toujours plaintifs, qui ont toujours des raisons. Ça fait des années et des années, on ne trouve pas de solution. À chaque fois qu'il y a une équipe qui arrive, donc, il y a une prise de décision spectaculaire, on s'est fait voir que non, on va faire ceci, mais en réalité, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. L'argent de l'État a été sorti de cette mission-là.
Merci.
Mais quel a été le résultat?
Merci beaucoup, Confiance. Je crois que notre invité pourrait nous donner quelques précisions là-dessus. Si l'équipe fera encore un déplacement de Matadi pour évaluer les travaux qui est fait pendant ce mois de février. Stoyenne, vous êtes à Lubumbashi, on va terminer avec vous rapidement, 30 secondes. Stoyenne, bonjour.
Bonjour, c'est Stoyenne.
Vous nous excuserez, on n'a plus assez de temps, donc on a 30 secondes, si vous pouvez résumer votre intervention.
Merci beaucoup. Je veux dire peut-être 3 choses. Que notre gouvernement laisse d'abord le système là de tambour battant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis, autre chose, un projet quelconque, d'abord l'étudier, ou soit terminer ça, de mettre en pratique, si il voit que maintenant, ça prouve des fruits concrets. Et maintenant, il commence à publier ça. Deuxième point pour bien assainir cet environnement portuaire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'assainir avec port. Ce qui veut dire que le port de Matadi produit beaucoup, 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 beaucoup. Si ils peuvent quand même allouer le revenu, le revenu du port là, et le mettre à la disposition pour assainir l'infrastructure du port,
merci,
ça va donner du bien.
Soyen, je crois qu'on vous prendra très prochainement hein, pour d'autres analyses au cours de cette émission Parole aux auditeurs. Il est temps pour nous d'accorder la parole à notre invité pour la conclusion. Lems Kamonia, on va conclure avec vous sur la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir au jour d'aujourd'hui? Le Matadi n'est plus en situation d'engorgement. Il y a entre autres des mesures qui ont été prises par les gouvernements.
Exactement, donc ce que je voudrais dire, effectivement, Matadi n'est pas en situation d'engorgement. Il y a des mesures qui ont été prises par les gouvernements, et ces mesures, comme l'a dit monsieur, pour ne pas contredire monsieur Confiance, quand le gouvernement a une matrice avec tout ce qu'il y a comme décision arrêtée, et régulièrement on passe pour évaluer, pour voir quelles sont les avancées, quelles sont les actions correctrices, quelles sanctions qui ont été prises. Ce n'est pas une nouvelle mission qui a commencé, c'était par rapport à ce qui se faisait avant. Et le gouvernement, cette fois-ci, a pris l'engagement lui-même de mettre la main à la poche, de financer les infrastructures qu'il faut, de mettre en place les systèmes qu'il faut pour arriver à les faire. Et ça, ce n'est pas un tambour battant, parce qu'un gouvernement responsable doit toujours communiquer les mesures qu'il arrête, d'abord pour se faire évaluer par la population pour voir si le gouvernement tient parole, et aussi pour que la population l'accompagne dans le cas des mesures qui sont en train d'être mises en place. Alors, peut-être à ce jour, je comprends, comme je l'ai dit tout à l'heure, les auditeurs sont désabusés, mais à très court terme, d'ici 3 ou 4 mois, je crois qu'on aura un autre son de cloche. Voilà.
Lems Kamonia, vous êtes le directeur de cabinet adjoint au ministère de Transport et Voies des Communications. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierre Lavigi l'ont réalisé. Et Jérôme Guimbo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiookapi.net. À très bientôt.